Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos jusqu'à 19h30 dans l'actualité ce soir. L'état de santé de Donald Trump qui s'améliore. Le président américain pourrait sortir de l'hôpital dès demain, Gregory Phillips, dans un instant. La Nouvelle-Calédonie dit non à l'indépendance, mais l'écart se resserre avec le vote indépendantiste. Emmanuel Macron exprime sa reconnaissance après la victoire du non. Reconnaissance et humilité, dit le chef de l'État. Une deuxième victime des intempéries retrouvée ce soir à Saint-Martin-Vésubie, près de deux jours après le passage de la tempête Alex et les crues hors normes dans l'arrière-pays niçois. Les secours et les recherches se poursuivent et s'intensifient. L'escalade du conflit dans le Haut-Karabakh, les frappes visent les zones urbaines. Au huitième jour d'affrontements meurtriers, les bombardements laissent planer la menace d'un conflit ouvert entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Dans la page sport de cette édition, nous irons à Roland-Garros. Élimination cet après-midi de Caroline Garcia. Hugo Gaston affronte l'Autrichien Dominic Thiem. Du cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège. Victoire de Roglic, course cauchemar pour Julian Alaphilippe. Le long format de cette édition consacré aux épreuves de course à pied qui souffrent de la crise sanitaire. À la fin de cette session d'information, on ouvre une page agenda avec l'actu à suivre la semaine prochaine. Et puis, votre chronique, c'est mon actu, chronique romantique avec le témoignage d'une fleuriste avant la finale demain des championnats de France de fleuristes. La météo, demain de la pluie, vigilance orange pour le sud de l'Aquitaine et pour le département de la Manche. Jean-Michel Golinski en fin de journal. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 5 ans, j'aimerais savoir si Dieu existe.
Courage pour la réponse à 19h30, Noël Bréham.
France Inter.
Donald Trump va mieux, son état de santé s'améliore, la fièvre est tombée. Les médecins du président américain ont tenu aujourd'hui une nouvelle conférence de presse. Bonsoir Grégory Phillips en direct de Washington.
Bonsoir Frédéric.
Donald Trump pourrait sortir de l'hôpital dès demain lundi.
Oui, c'est sans nul doute l'information principale de cette conférence de presse organisée sur les marches de l'hôpital militaire Walter Reed. Elle émane du docteur Brian Garibaldi qui est en charge des traitements administrés au président américain.
Aujourd'hui, il se sent bien, il se lève. Notre plan, c'est de le faire manger et boire. Il faut qu'il soit debout, en dehors du lit, le plus possible, mobile. Et s'il continue à se sentir bien, on espère une sortie de l'hôpital, peut-être demain, pour un retour à la Maison Blanche, où il continuera évidemment à recevoir ses traitements.
Les médecins précisent aussi que Donald Trump n'a plus de fièvre depuis 48 heures, mais que à deux reprises, son niveau d'oxygène a baissé. Vendredi matin notamment, le président a dû pendant une heure recevoir de l'oxygène supplémentaire. Hier, cette information avait été passée sous silence. On apprend aussi que le patient a été placé sous stéroïdes. Et ça, c'est un peu étonnant parce que l'OMS recommande ce type de traitement uniquement pour les cas sévères de Covid-19. Depuis la nuit de jeudi à vendredi, la communication des médecins et celle de la Maison Blanche sont, disons, assez ambigu. Il faudra donc voir dans la soirée si cette sortie de l'hôpital est confirmée ou non, car si on en croit l'équipe médicale, Trump a été diagnostiqué jeudi soir, ce serait donc une sortie de l'hôpital au quatrième jour seulement de sa maladie, ce qui là aussi est assez surprenant.
Grégory Phillips, en direct de Washington. La Nouvelle-Calédonie a donc dit non à l'indépendance lors d'un deuxième référendum d'autodétermination organisé aujourd'hui. Le non l'emporte avec 53,2% des voix contre 46,8% pour le vote indépendantiste lors d'un premier référendum il y a deux ans. Le non l'avait emporté avec plus de 56% des voix. Le camp loyaliste et donc en recul cette année. L'écart n'est plus que de 9 965 voix, près de deux fois moins qu'il y a deux ans. La réaction d'Alain Krisnak, artisan des accords de Matignon et haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1994. Alain Krisnak avec Augustin Arrivé.
Vous savez, ça fait un tiers de siècle qu'on essaie de trouver la solution du problème calédonien. On en est à la cinquième consultation, si on compte celle de 87, des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. La population est divisée éthiquement et géographiquement. Si on avait 50-50, il faudrait également trouver une solution par le dialogue. Donc je crois qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table. La campagne électorale a été digne, mais un peu dialogue de sourds, parce que les non-indépendantistes ont beaucoup argumenté sur la perte de moyens, de financement, le risque de pauvreté, et les indépendantistes ont beaucoup argumenté sur la dignité. Alors il faut trouver une solution qui donne plus de dignité aux Kanaks, qui étaient majoritaires en 70 dans la population, qui ne le sont plus, qui ont eu le sentiment longtemps d'être bafoués, ce que le préambule de l'accord de Nouméa a reconnu, mais il y a encore du chemin à faire. Et puis il faut évidemment traiter les problèmes du développement, les problèmes de l'économie, les problèmes du financement qui ne sont pas négligeables.
Emmanuel Macron, le président de la République, a exprimé sa reconnaissance après la victoire du non à l'indépendance. Il faut maintenant, dit-il, construire l'avenir. Emmanuel Macron, lors d'une courte allocution à l'Élysée.
Les électeurs se sont exprimés. Ils ont majoritairement confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. En tant que chef de l'État, j'accueille cette marque de confiance dans la République avec un profond sentiment de reconnaissance. J'accueille également ces résultats avec humilité. J'entends la voix de celles et ceux qu'animent la volonté de l'indépendance. Et je veux leur dire, c'est avec vous. Ce n'est qu'ensemble que nous construirons la Nouvelle-Calédonie de demain. Cette deuxième campagne référendaire a certes connu des soubresauts. Elle a été marquée par davantage de tensions, d'oppositions. Je crois plutôt que nous devons saluer la réussite de ce deuxième scrutin et nous tourner vers l'avenir.
D'autres réactions, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, estime qu'un troisième référendum, comme cela est prévu, ne servirait à rien. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, souligne que la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de la France et qu'il faut écrire l'histoire en commun dans le respect des identités de chacun. Enfin, François Bayrou sur France Inter dans Question Politique accueille comme une bonne nouvelle ce nom à l'indépendance. Nouveau tour de vis à Paris et petite couronne face à la progression de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement doit annoncer la fermeture dès la semaine prochaine des bars parisiens. Les restaurants espèrent encore y échapper grâce à un protocole sanitaire renforcé. Les dernières données de l'Agence régionale de santé ne laissent guère d'espoir après un nouveau record annoncé hier, près de 17 000 nouvelles contaminations. Les autres indicateurs comme le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants ne se sont pas améliorés. Paris et la petite couronne devraient passer en alerte maximale. Et puis on a appris dans l'après-midi la mort du créateur japonais Kenzo Takada est mort des suites du Covid-19. Le couturier était âgé de 81 ans, Isabelle Pasquier.
Avec son look d'éternel étudiant, lunettes rondes, mèches dans le vent, costume noir, Kenzo Takada est l'un des pionniers des stylistes japonais. Installé à Paris, il avait fait ses adieux à la mode il y a 21 ans et avait cédé sa maison au groupe LVMH. Enfant, Kenzo était déjà passionné par le dessin et la couture. Après ses études à Tokyo, il décide de partir en France et arrive par bateau à Marseille. Il a 30 ans quand il inaugure sa première boutique au cœur de la galerie Vivienne. En 76, il fonde sa marque sous son seul prénom, Kenzo. Son style, une rencontre Orient-Occident avec des cotonnades japonaises, des graphismes floraux, végétaux, qui signent une allure libre et joyeuse, loin de la rigueur sévère des stylistes japonais. Ses défilés spectaculaires ont un succès fou parmi ses fans, Grace Jones et Jerry Hall. Kenzo a créé près de 8000 dessins. Il laisse l'héritage d'une mode multiculturelle et très audacieuse.
Isabelle Pasquier, un homme a été retrouvé mort dans sa voiture à Saint-Martin-Vésubie. Il s'agit de la deuxième personne décédée en France après les intempéries. Le corps d'un berger français a été également retrouvé dans le fleuve Roya, près de la frontière avec l'Italie cet après-midi. Deux jours après les crues et le chaos provoqué par les inondations, les recherches se poursuivent pour retrouver des personnes disparues ou dont on est sans nouvelles. Les habitants des vallées ravagées par les crues sont encore sous le choc, essonnés par la violence des intempéries. À Saint-Martin-Vésubie, au cœur du désastre, reportage Thibault Lefebvre.
Il pleut depuis le début de l'après-midi sur Saint-Martin-Vésubie, ce qui a notamment considérablement ralenti le ravitaillement et les évacuations par hélicoptère. Il y a en revanche deux bonnes nouvelles. La première, c'est la réparation en cours du morceau de route arraché vendredi par l'eau. Et la deuxième, c'est le retour par endroit de l'électricité. Avec l'arrivée en milieu d'après-midi de plusieurs groupes électrogènes.
On applaudit parce qu'il y a l'arrivée du groupe électrogène.
Jean-Marie vient de se servir un grand plat de pâtes distribué sur le parvis de la mairie.
Vous savez ce que c'est de passer trois jours sans électricité ? On aura peut-être un réseau pour pouvoir contacter nos proches qui s'inquiètent.
L'électricité ne fonctionne ce soir qu'à la mairie et à la boulangerie et le réseau téléphonique ne passe que par intermittence en bas du village, là où des dizaines d'habitants cherchent à joindre leurs proches comme Sylvie. L'eau s'est arrêtée vendredi au pied de sa maison et deux jours après le drame, elle pleure encore.
Regardez ce qui ne va pas. C'est la vie de plein de gens qui a anéanti là. Tout est parti, vous voyez, c'est la moitié du cimetière, toutes les maisons qui étaient là. quand il a commencé à pleuvoir fort à midi, on ne pouvait pas imaginer qu'à 4 heures, il y aurait déjà la moitié du parc qui aurait déjà disparu. Quoi.
Selon le maire de Saint-Martin-Vésubie, 38 maisons ont été emportées par l'eau et il y en a à peu près autant qui menacent encore ce soir de s'écrouler.
Thibault Lefebvre, et on l'apprend à l'instant par la protection civile italienne, au moins 4 corps échoués ont été retrouvés sur les côtes italiennes. À l'étranger, les bombardements qui se poursuivent dans le Haut-Karabakh laissent planer la menace d'un conflit ouvert entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan a accusé aujourd'hui les forces arméniennes d'avoir bombardé la deuxième ville du pays. L'escalade du conflit dans le Haut-Karabakh entre Arméniens et Azéris entre aujourd'hui dans sa deuxième semaine. Les bombardements ont fait des centaines de morts à Stepanakert, la capitale de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Les départs de civils effrayés par les frappes se multiplient. Reportage Claude Brouillot.
Sans panique, avec infiniment de précautions pour les passagers les plus vieux, ils montent un à un dans l'autocar qui doit les éloigner du danger un peu plus proche chaque jour. Les frappes aériennes de vendredi et de samedi sur Stepanakert ont décidé notamment Michel Tancrette, le représentant pour le Haut-Karabakh du Front arménien de France, à quitter la ville.
Ouais, on va aller à Yerevan quelques jours, quoi. On revient. Il y a des gens qui quittent le pays ici, mais et ceux qui restent, c'est vraiment bien souvent les familles. Ils ont quelqu'un qui est militaire, quelqu'un qui est au front, donc il ne veut pas partir.
Viens vite, sinon on ne va pas pouvoir y aller.
Michel Tancrette écoute sa fille le presser. Son épouse, Maria, arménienne, originaire de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, est déjà dans le bus, le cœur serré.
C'est surtout pour ma fille, parce que nous aimons beaucoup ce pays et ses habitants, mais c'est surtout pour ma fille qui est jeune et qui s'inquiète pour elle, voilà. Et nous espérons que la communauté internationale va agir, va faire quelque chose.
Les départs de civils s'accélèrent depuis 2 jours. Les réfugiés ont remplacé les militaires dans les halls d'hôtels. Le Haut-Karabakh se vide lentement de sa population. Ne resteront bientôt que des combattants. Stepanakert, Claude Brouillot, France Inter.
En France, une marche blanche en hommage à Victorine. Plus de 2000 personnes, des anonymes ou des proches de Victorine d'Artois, se sont rassemblées et recueillies en hommage à la jeune étudiante retrouvée morte dans un ruisseau. La foule s'est retrouvée à Villefontaine, dans l'Isère, où habite la famille de Victorine. (Rire) 19h13 sur France Inter et comme promis, on ouvre la page sport de cette session d'information avec vous, Alexandre Berthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Au menu aujourd'hui du football, du cyclisme et bien sûr Roland-Garros où les Français sont loin de briller, mais il y en a un qui a pris rendez-vous pour l'avenir.
Oui, il s'appelle Hugo Gaston, dernier Rome en lice côté français, en 8e de finale en ce moment même, après avoir éliminé Stan Wawrinka au dernier tour et enthousiasmé avec un jeu audacieux, malin, plein de sang-froid. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir.
Hugo Gaston est 239e mondial, c'est vous ça. Me corrigez si je me trompe, il a c'est à peine ça. 20 ans et là il tient tête au numéro 3 mondial Dominic Thiem.
Et il a été invité par l'organisation à disputer ce tournoi du Grand Chelem, le premier pour lui dans sa jeune carrière. Après 2h28 de jeu, il a toujours réussi à enflammer le central, 4-7 déjà dans cette partie. Le troisième a été perdu par Dominic Thiem, c'est le premier que l'Autrichien numéro 3 mondial cède depuis le début du tournoi, lui qui était impérial comme Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et il tombe sur ce jeune Français, plein de surprises dans ses coups, notamment dans les amortis qui font tourner la tête de Dominic Thiem encore une fois. Là, les deux hommes sont au filet et Hugo Gaston dans la quatrième manche mène 2-1. Service à suivre pour Thiem. Thiem qui avait pourtant déroulé dans les deux premières manches 6-4, 6-4 en 42 minutes et 38 minutes en prenant à chaque fois le service de Hugo Gaston. Mais la partie est relancée avec un Français qui est loin théoriquement de son classement 239e mondial face au numéro 3. Il est largement dans le coup.
Hugo Gaston, le Toulousain, donc dernier homme en lice à Roland-Garros. Merci beaucoup Guillaume Batin. Dernier Français côté garçon et côté femme. Et il n'en reste qu'une aussi. Fiona Ferro qui jouera demain son 8e de finale face à l'américaine, la 6e mondiale Sofia Kenin.
Et puis Alexandre, à Roland-Garros, il y a aussi cette polémique sur le tournoi taxé d'être réfractaire à la technologie.
Oui, c'est Novak Djokovic, la superstar qui a pointé du doigt l'organisation française pour son refus d'utiliser l'arbitrage vidéo, le Hawk Eye, œil d'aigle en français. Roland Garros serait donc un tournoi gaulois et réfractaire apparemment, mais les organisateurs ont répondu à Novak Djokovic et Massarango.
Introduit en 2006 à Miami et désormais omniprésent sur dur et sur gazon, l'arbitrage vidéo permet de savoir si oui ou non la balle a rebondi à l'intérieur des lignes du court. Mais pour l'instant, à part une expérimentation en février à Rio, la terre battue ne l'a pas adoptée, au grand regret de Novak Djokovic.
Avec tout le respect que j'ai pour les traditions et la culture de notre sport, la technologie est tellement perfectionnée aujourd'hui que je ne vois pas pourquoi on continue de fonctionner avec des juges de ligne sur le terrain.
Alors entendra-t-on bientôt les joueurs dire « challenge » sur le central ou sur le Suzanne Lenglen ? Pas question, répond le directeur de Roland-Garros, Guy Forget.
Quand la balle touche la ligne, d'ailleurs tous les spectateurs voient qu'une partie de la ligne est blanchie par la trace d'une balle, en réalité l'impact, si on l'analyse de manière numérique, il est parfois derrière la ligne, donc la balle serait faute. Donc imaginez, à chaque fois qu'il y a une balle qui touche la ligne, et tous les gens diraient « ah, oh, point magnifique !» et on dirait finalement à tout le monde « ah ben non, votre balle est faute !» On a un système de formation aujourd'hui, aussi dans le système arbitrage français, bien entraîné, bien préparé.
Le tournoi de Roland-Garros, qui dans le passé a plusieurs fois joué le rôle de réfractaire concernant les courts couverts ou encore l'adoption du tie-break au 5e set, avant de finalement se ranger derrière les trois autres grands chelems.
Emma Sarango à Roland-Garros pour France Inter. Novak Djokovic qui jouera son 8e de finale demain, lui.
On passe au cyclisme. Alexandre Julian Alaphilippe disputait aujourd'hui sa première course avec son tout nouveau maillot de champion du monde.
Oui, qu'il a remporté il y a une semaine en Italie et il était dans le coup, hein, le Français, pour remporter Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Il a levé les bras, mais il n'a pas gagné. Stéphane Barbereau, vous avez suivi la course pour nous.
Oui, on va revenir sur ce point précis, pourquoi il n'a pas gagné malgré ses bras levés. Julien Alaphilippe, vous savez, il aime les émotions fortes, mais il n'a pas été déçu aujourd'hui. L'ascenseur émotionnel était à son maximum. Premier étage, une chute et des ennuis mécaniques avec son pédalier, puis sa chaussure. Il a mis 20 km à rentrer seul dans le peloton. Deuxième étage, il attaque, et là on le retrouve, dans la roche au faucon, ultime ascension. C'est traditionnellement là que se fait la différence. Il est repris par le Suisse Marc Hirschi, par Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France, et Primoz Roglic, deuxième de la grande boucle. Troisième étage, l'emballement final à la Philippe Sprint semble plus costaud que les autres, mais il change de trajectoire, il coupe celle d'Hirschi qui stoppe net son effort. À la Philippe va au bout, lève les bras, mais la photo finish montre que c'est Roglic qui est devant, à peine une demi-roue sépare les deux hommes. À la Philippe est deuxième, et là on atteint le dernier étage de l'ascenseur émotionnel du Français, puisqu'il est finalement classé cinquième. Il a été en fait déclassé par le jury des commissaires pour son sprint non réglementaire. Mais pour Primoz Roglic, les cinq hommes qui ont disputé ce sprint final étaient tous au même niveau.
On est tous des gagnants ici. On veut tous porter le dossard numéro 1 dans le dos, avoir notre nom tout en haut. Et pour moi, je suis super content parce que enfin, je gagne quelque chose.
Finally, I won something.
Roglic qui gagne enfin, le Slovène qui est connu pour être plutôt réservé, s'en amuse presque. Lui qui s'était fait souffler la victoire dans le Tour de France la veille de l'arrivée par son compatriote Pogacar. Il ne sera pas le Pouli d'or de la Slovénie et il rentre dans le cercle assez fermé des coureurs de Grand Tour qui accrochent un monument à leur palmarès, à l'instar d'un Valverde, d'un Hino ou d'un Eddy Merckx.
Merci beaucoup Stéphane Barbereau. Depuis la zone d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe déclassé et donc cinquième. Un petit mot de foot, ça va fort dans le Nord. Lille est provisoirement deuxième du championnat puisque les Dogs ont battu Strasbourg 3-0 cet après-midi et Lens est troisième avec sa victoire contre Saint-Etienne. C'est toujours Rennes qui domine la Ligue 1. Match nul 2-2 contre Reims. Sachez que l'affiche, évidemment, c'est ce soir l'affiche entre Lyon et Marseille.
Notre long format sport de ce dimanche soir consacré à la course à pied, un sport qui souffre de la crise sanitaire depuis le mois de mars. C'est une véritable hécatombe. Les courses à pied sont annulées les unes après les autres. Plus de marathons, plus de 10 km, aucun trail. Les milliers d'épreuves ont été annulées partout en France. Une poignée de courses cependant ont été maintenues, comme l'Ultra Trail des Montagnes du Jura, dont la première édition s'est achevée ce week-end avec 2000 participants et des règles sanitaires très strictes. Reportage Jérôme Val dans les montagnes du Jura, entre Les Rousses et Métabier. C'est le long format de ce soir.
Kilomètre 68, la base de vie des Rousses permet aux concurrents de se changer et de se restaurer.
Allez, du sucre!
Il leur reste 112 km à avaler sous une pluie battante.
Ça va, un peu mal à l'adducteur droit. On a un peu trompé.
Cette halte aménagée dans un bâtiment de la station de ski a été repensée au temps de la Covid-19, sa responsable Marie-Carmen.
Il y a une entrée en bas, donc comme ça les coureurs quand ils arrivent, ils montent ici,
qui se restaurent, donc il y a tout un cheminement et ils repartent par l'autre côté de la salle, par l'arrière.
Ne pas se croiser, et c'est le même protocole au point de ravitaillement sur le parcours.
Qu'est-ce que vous avez demandé, vous, précisément, à ce point d'entrée du ravitaillement ?
Nous, on a demandé à ce qu'il y ait le port du masque à l'entrée des ravitaillements. On leur donne la nourriture pour pas qu'ils servent eux-mêmes lors du ravitaillement.
L'UTMJ a dû composer en traversant 3 départements avec un crochet par la Suisse. C'est autant de contraintes, même si en course, ce n'est pas évident de respecter les gestes barrières, remarque Sacha De Villaz, l'un des coureurs élites.
Pour moi, c'est un gros raté vis-à-vis de ça, parce que en course, non, de toute façon, c'est pas du tout respecté. On n'a pas de masque et puis on peut pas courir à 1 mètre. On est tous dans le paquet. Puis la course que j'ai faite en France, on avait interdiction de cracher par terre, on a interdiction de se moucher. Et c'est impossible en course, c'est dur.
Mais c'est le prix à payer pour exister. Une bénédiction aussi dans une saison où les courses sont tombées les unes après les autres, des milliers d'épreuves annulées. L'Ultra Trail des montagnes du Jura est un survivant.
On vient de la région de Brest, donc à plus de 1000 bornes d'ici.
Christophe et Michael n'ont pourtant pas hésité un seul instant.
Depuis le mois de mars, 0 course officielle. On s'est fait une course entre nous dans la région de Brest.
Sincèrement, moi, au mois de juin, j'y croyais pas.
Les organisateurs de l'UTMJ n'ont reçu le feu vert des pouvoirs publics que 24 heures avant le départ. Une incertitude difficile à gérer pour des coureurs privés de leur passion, comme Sébastien venu en voisin de Besançon.
C'est vrai que jusqu'à il y a 3 semaines, 15 jours en arrière, on était un peu dans l'expectative de savoir si elle allait se maintenir, parce qu'on a vu beaucoup des courses, que ce soit dans le tri ou dans le trail, s'annuler 15 jours auparavant. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de se mobiliser jusqu'au bout. Enfin, on y a cru.
Résultat, les listes d'attente pour participer aux différentes épreuves ce week-end dans le Jura se sont très vite allongées, comme le détaille l'organisateur Éric Picot.
On a des mails qui nous arrivent alors que les inscriptions sont fermées à nous dire si toutefois il y a un dossard qui se libère, on est preneur. Mais je vous dis, sur toutes les courses majeures, on a des listes d'attente de plusieurs dizaines de coureurs.
Cet ultra-trail à l'ère de la Covid n'a pas dérogé à son exigeante règle de dureté. Il y a eu 2/3 d'abandon dans le froid et la pluie.
Et c'est le Suisse Fabrice Fauser qui s'est imposé en 24 heures, 53 minutes et 39 secondes, avec plus d'une heure d'avance sur son premier poursuivant. Alexandre Berthaud voulait ajouter une précision sur le marathon de Londres.
Absolument, qui avait lieu aujourd'hui. Et le grandissime favori kényan Eliud Kipchoge, recordman du monde, a perdu. C'est la première fois depuis 7 ans. C'est donc la grande nouvelle du jour côté marathon. C'est l'Éthiopien Shura Kitata qui l'a emporté en 2h, 5 minutes et 41 secondes.
Merci Alexandre. Et on referme cette page sport.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À 19h22, à suivre cette semaine, et on ouvre notre agenda des moments forts de l'actualité de la semaine qui vient, avec les annonces des prix Nobel tout au long de la semaine. Dès demain à Stockholm, annonce du prix Nobel de médecine, puis physique et chimie, et en fin de semaine, prix Nobel de littérature et prix Nobel de la paix, mais sans cérémonie pour cause de coronavirus. Cette fameuse semaine des Nobel a connu ces dernières années pas mal de soubresauts, Frédéric Faux.
Le Nobel de littérature pourrait-il revenir au sulfureux Michel Houellebecq ou à la plus consensuelle Jamaica Kincaid, une écrivaine américano-caribéenne? Dans le premier cas, les membres de l'Académie de littérature, déjà décriés par un scandale sexuel qui avait empêché l'attribution du Nobel en 2018, risqueraient une polémique de plus. Le Nobel de la paix pourrait-il aussi revenir à une femme, Greta Thunberg? Pour certains, l'activiste suédoise pour le climat est le choix idéal. Pour d'autres, c'est la liberté de la presse, de plus en plus menacée, qu'il faut distinguer. Comme chaque année, les paris vont bon train sur les noms des futurs lauréats, avec une inconnue supplémentaire. L'impact du coronavirus sur nos sociétés pourrait-il influencer l'attribution des Nobel de médecine ou d'économie ? Une chose est sûre, à cause de l'épidémie, les lauréats ne viendront pas en décembre à Stockholm pour recevoir leur prix, dont le montant a été augmenté cette année pour atteindre près d'1 million d'euros. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
Demain également, le retour des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles examinés à l'Assemblée. Les députés s'emparent de ce projet de loi controversé. À suivre également la rentrée universitaire qui se poursuit tant bien que mal sous la menace de l'épidémie de coronavirus. Santé publique France a souligné cette semaine qu'un tiers des clusters se trouvaient désormais dans les écoles et les facultés. Olivier est enseignant en biologie à Paris. Au sein de son université, les règles sanitaires sont loin d'être respectées, que ce soit par les profs ou les étudiants. Olivier avec Wafia Kenich.
En amphi, on est exactement comme avant, c'est-à-dire qu'on a des publics de 100 à 150 personnes. Dans des amphis qui ne sont pas ventilés, où on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Alors évidemment, tout le monde a des masques, mais les étudiants sont côte à côte. En TD, on a la même situation. On a des salles qui sont prévues pour 32 personnes, qui font une quarantaine de mètres carrés. Donc je vous laisse faire le calcul, on n'est absolument pas capable de respecter la distanciation sociale. Là encore, dans des locaux qu'on ne peut pas aérer, puisqu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres, donc qui sont très mal ventilés. Donc en termes de règles sanitaires, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est acceptable. Je peux vous dire que j'ai un certain nombre de collègues qui ont entre 60 et 65 ans, qui eux se sentent vraiment très concernés par la situation, qui envisagent d'ailleurs parfois d'exercer leur droit de retrait.
À noter cette semaine également le congrès annuel du Parti conservateur au Royaume-Uni avec un discours de Boris Johnson. Gérald Darmanin sur la question du séparatisme reçoit Marine Le Pen mardi également. Et puis en fin de semaine, journée mondiale du handicap. Et puis le week-end prochain, sur l'agenda, les finales femmes samedi et hommes dimanche à Roland-Garros. 19h25 sur France Inter, notre session d'information se poursuit avec C'est mon actu, votre rendez-vous, signé ce soir Antoine Gignot. Et ce soir, c'est l'actu de Cindy Gunter, fleuriste, que nous vous faisons partager. Et son actualité est très importante puisqu'elle sera demain si elle est championne de France des fleuristes. Cindy Gunter est artiste floral à Torcy, en Seine-et-Marne. Antoine Gignot l'a rencontrée juste avant son départ pour Tours. Témoignage.
La peur de ne rien oublier, donc on check la liste de A à Z 20 fois, histoire d'être sûr, parce qu'on ramène absolument tout. Tous les végétaux, la structure, ça peut être une arche, ça peut être un mur floral, ça peut être une table, un lustre, peu importe, c'est au choix du candidat. Ça fait un mois qu'on a le sujet, 3 semaines que le projet est validé, entre la recherche de fonds, de sponsors, etc., on va dire concrètement pour moi une semaine que je suis dessus.
Recherche de sponsors, parce qu'il faut quoi comme budget pour développer un projet justement comme celui-là?
Personnellement, ça va tourner dans les 5-6 000 à peu près. Bien évidemment, la plus grosse partie, ça va être la partie fleurs. Et puis juste derrière, c'est la logistique. Location de camions, hôtellerie, restauration, etc.
Si vous mettez autant de temps, autant d'argent, vous en attendez quoi?
Quand vous êtes champion de France, déjà vous êtes ambassadeur de la Fédération des Françaises des Fleuristes. Et puis vous avez également cette opportunité de pouvoir travailler pour des salons, pour des grossistes, pour des fournisseurs. La notoriété qui va avec n'est pas la même.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier?
Ça fait un petit peu plus d'une décennie maintenant.
L'épidémie, elle a eu un vrai impact? Vous l'avez vu sur l'année qui vient de passer?
Elle a eu un impact non négligeable, ça on ne peut pas le nier. Moi j'ai des clients qui ont dû fermer malheureusement. Il y en a dans la restauration, il y en a dans le tourisme. Et justement, ce qui est bien aussi avec cette compétition, c'est que ça nous permet de montrer qu'on est là, malgré tout, qu'on continue et qu'on y croit.
Ça fait 10 ans que vous êtes installé aujourd'hui. Quand est-ce que vous vous êtes dit, oui, ça c'est vraiment le domaine que je veux explorer?
Ça s'est fait pour ma reconversion. Avant, j'étais militaire. Kaboul, l'Afghanistan, le Koweït, etc. Puis je suis tombée dedans parce que ça me calmait. Je fais jamais rien comme les autres. Bah, à l'armée, une femme, ça, c'est pas toujours bien vu. En tout cas, moi, à l'époque, quand je suis rentrée, c'était pas vraiment rentrée dans les mœurs. Et donc, effectivement, j'ai appris à défendre ma place et je continue à le faire dans la fleur.
Et on croise les doigts pour Cindy Gunter pour la finale à Tours. Le temps pour demain.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
De la pluie, Jean-Michel Golinski.
Vigilance orange en cours pour le sud de l'Aquitaine et le département de la Manche en raison des forts cumuls de précipitations attendus. Il faut dire que le temps perturbé qui circule autour de la dépression centrée sur l'Angleterre va encore s'imposer jusqu'en fin de nuit dans la moitié sud et ce lundi toute la journée au nord de la Loire et sur une grande partie du nord de la Seine, avec des pluies soutenues le matin entre la Manche, la Loire et la Belgique et tout de même un peu moins de précipitations l'après-midi sur la pointe ouest. Dans la moitié sud, ce sont souvent les averses qui vont rythmer la journée, sauf du golfe du Lion à la Provence où le soleil sera vaillant. Le vent de secteur ouest va approcher 80 km à l'heure sur les côtes et les reliefs, 60 dans les terres, avec demain après-midi des températures maximales sensiblement stationnaires par rapport à celles relevées cet après-midi.
Jean-Michel Golinski de Météo France.